Louange et action de grâce soient rendues au Seigneur. Heureux celui qui a cette certitude dans son cœur. J'ai récemment dit à un jeune homme qui était très critique, écoute, je sais que je prendrai part à l'enlèvement. Et il m'a répondu, oui, frère Branham a dit, j'espère que je prendrai part à l'enlèvement. Et qui es-tu pour dire maintenant simplement, je sais que je serai présent. Et comme il était critique, il a bien sûr essayé d'une certaine manière de mal interpréter la chose et de mal comprendre. Mais ensuite, j'ai quand même pu lui dire mon expérience du 1er janvier 1981. Et cela me restera jusqu'au dernier jour de ma vie. Cela me restera jusqu'à l'heure où nous vivrons ensemble le changement et l'enlèvement. Là, avec la Bible ouverte devant moi et devant le Dieu vivant qui jugera un jour les vivants et les morts, devant lequel tous devront apparaître, je pourrais dire que j'ai vu la troupe vêtue de blanc et que j'ai été emporté avec elle, que nous étions tous jeunes. Je pourrais donner tous les détails comme je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et la personne à côté de moi n'était pas plus loin que ma main ne l'est maintenant. J'ai pu voir aussi loin qu'on ne peut peut-être pas voir sur terre. Et tous étaient jeunes, tous avaient un visage transfiguré, tous étaient vêtus de blanc. Mais tous avaient leur couleur de cheveux d'origine. C'était la seule chose qui mettait un peu d'ambiance dans tout ça. Le fait que j'ai été intégré dans cette foule, et je dis la vérité, j'étais au premier rang. Non pas parce que je prêche ici la parole et que je porte le message de Dieu, mais c'est la vérité absolue et pure. Dieu est fidèle. En tant qu'être humain, nous sommes tantôt fidèles, tantôt infidèles, tantôt pour, tantôt contre. Et quoi encore? Pour Dieu, la chose a été décidée avant la fondation du monde. Et il dit, mon dessein s'accomplira. Ce que j'ordonne s'accomplira. Et ainsi nous pouvons nous réjouir et amarrer l'ancre de notre âme. Chers amis, ceci doit déjà nous servir d'introduction à ce week-end. Que nous soyons affermis. Que nous ne nous contentions pas d'entendre la parole de Dieu, mais que nous comptions sur le fait que Dieu la confirme, qu'elle devienne réalité, que nous puissions emporter chez nous les bénédictions promises. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Je voudrais lire, avant la prière, le psaume 130. Psaume 130, verset 1. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Verset 2, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma forte supplication. Verset 3. Si toi, Seigneur, tu retiens les péchés, ô Seigneur, qui peut subsister ? Verset 4. Mais auprès de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. Verset 5. J'espère au Seigneur. Mon âme espère et j'attends. Je m'attends à sa parole. Verset 6. Mon âme attend le Tout-Puissant avec plus d'ardeur que les sentinelles du matin. Verset 7. Plus désireux que la sentinelle du matin, Israël, attend le Seigneur, car la grâce du Seigneur et la délivrance auprès de lui sont abondantes. Et il rachètera Israël de tous ses péchés. De tous ses péchés. Levons-nous et prions. Levons-nous et prions. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour le grand privilège que nous avons de pouvoir venir devant ton trône de grâce. Nous te remercions, Seigneur, fidèle, d'être entré dans le sanctuaire céleste avec ton saint sang et que ton sang parle pour nous. Seigneur, prends en charge cette assemblée, cette réunion. Sois présent à nos côtés. Révèle-toi à nous par ta parole et par ton esprit. Enlève toute autre pensée. Enlève tout ce qui nous dérange ou nous empêche, nous arrête et qui pourrait te faire obstacle. Enlève tout ce qui voudrait nous retenir. Seigneur, rends-nous visite, toi qui te lèves d'en haut. Que tu puisses nous rencontrer d'une manière toute nouvelle et glorieuse. Donne-nous la grâce de laisser de côté le quotidien avec tous ses soucis et ses tracas et d'entrer en ta présence. Seigneur bien-aimé, que ta grâce éclate dans chaque cœur, que la reconnaissance éclate dans chaque cœur pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous te remercions pour ta parole, pour ton sang, pour ton esprit. Sauveur bien-aimé, prends-moi, prends-nous tous. Aie ton chemin dans nos vies, au milieu de nous. Seigneur bien-aimé, nous t'attendons dans cette génération. Tu viens bientôt, ô époux de notre âme. Fais-nous grâce. Orne ton épouse. Révèle-toi à elle. Confie-lui tes mystères. Ce soir, nous te demandons ta présence spéciale. Donne-nous la foi et la confiance en toi et en ta parole. Seigneur bien-aimé, bénis tous les frères et toutes les sœurs qui sont venus et aussi tous ceux qui ne peuvent pas être ici, quelle qu'en soit la raison. Seigneur bien-aimé, accorde-nous encore une visite de grâce divine qui serait incomparable avec tous les réveils qui ont eu lieu derrière nous. Seigneur, une visitation de grâce divine comme dans l'Église primitive du temps des chrétiens, au jour des apôtres. Fais-nous d'abord revenir dans le premier amour, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Tu restaureras tout et tu feras sortir ta cause glorieusement. Tu manifesteras ta cause glorieusement. Glorieusement. À toi, l'agneau de Dieu qui s'est laissé immoler et qui a saigné pour nous sur la croix. À toi la gloire et l'honneur, car toi seul étais digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es le lion de la tribu de Juda. Alléluia! Tu as vaincu. Nous te remercions pour cela. Ta victoire est aussi là, notre Seigneur fidèle. Nous avons de plus en plus besoin de toi. Sois avec nous et bénis-nous de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Si l'on peut prendre l'occasion comme celle qui m'est donnée aujourd'hui de voir notre cher frère aîné, et si l'on suit le parcours spirituel des 40 ou 50 dernières années, on peut voir que le temps a avancé. Sans aucun doute, il y a eu de tout temps des hommes de Dieu bénis, des réunions bénies, des réveils. Dieu a fait beaucoup de choses dans le passé. Mais nous vivons, sans aucun doute, à la fin des temps, dans un âge prophétique, dans une époque où la prophétie biblique s'accomplit, dans une époque où la parole prophétique devait être placée sur le chandelier pour séparer tous les esprits. Car nous devons le confesser ouvertement, à travers chaque réveil, beaucoup de choses se sont glissées, ont été maintenues, qui n'appartiennent pas à la pensée divine originelle. Et en ces jours, Dieu veut nettoyer à fond son air, enlever le dernier levain, la dernière pâte acidifiée de toutes les traditions humaines et coutumes, afin que nous devenions une pâte molle d'honnêteté et de vérité, que ce ne soit pas seulement l'euphorie, l'allégresse, ni l'enthousiasme, mais que la parole de Dieu est la priorité, la première place, et que le Seigneur soit glorifié dans son Église. Hier encore, vers minuit, une sœur m'a téléphoné pour me demander si nous n'avions pas tendance à mettre trop en avant frère Branham. Cela en a parfois l'air, mais je pense que nous avons, avec un cœur sincère, donné à notre Seigneur la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place. Il est le premier et il est le dernier. Mais nous confessons ce que la parole de Dieu dit. Il avait dans sa droite 7 étoiles. Et ces 7 étoiles étaient les 7 anges des 7 églises. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse au 1er chapitre, dans les 2 derniers versets. Eh bien, que nous n'abordions pas toutes ces choses, nous voulons quand même le dire à ceux qui ont peut-être du mal à comprendre et qui se demandent, quelle est donc la différence? Ici, on chante dans le même livre de cantiques, on lit dans la même Bible, on chante les mêmes cantiques, tout semble pourtant être la même chose. Bien-aimés, cela peut donner cette impression à l'extérieur, mais intérieurement, nous pouvons percevoir la différence. Nous savons ce que Dieu a fait, et cela nous humilie sous la main puissante de Dieu. Nous savons que, surtout depuis le début du siècle, des réveils, des mouvements spirituels et des courants ont vu le jour. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, ils ont tous pris suffisamment des anciennes doctrines et traditions pour revenir à une Babel et y finir. Mais maintenant, le Seigneur appelle son peuple à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et vous serez mes fils et mes filles. Et alors je serai votre Père. C'est la promesse directe, bien qu'elle se trouve déjà une fois dans 2 Corinthiens et ensuite de nouveau dans l'Apocalypse. Elle s'applique néanmoins à cette époque de manière très particulière. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, on peut lire à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ordonne le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. Verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Et bien sûr, la parole d'Apocalypse 18, verset 4, l'appel direct à sortir. Peut-être que nous pouvons aussi lire cela, Apocalypse 18, verset 4. Alors, j'ai entendu une autre voix crier du ciel, « Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple !» afin que vous n'ayez point de part à ses péchés et que vous ne soyez point atteints de ses plaies. Verset 5, car leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de leurs iniquités. Nous ne voulons pas non plus nous étendre sur ce sujet ici. Il est question de la grande ville de Babylone, de l'endroit d'où la domination est exercée sous les rois de la terre. Et quelqu'un pourrait dire, eh bien, nous ne faisons pas du tout partie de cette grande communauté religieuse mondiale. N'avons-nous pas compris que tous les chemins y ramènent, même si c'est par le biais du Conseil mondial des églises? Et c'est pourquoi le proverbe dit beaucoup de choses, beaucoup de chemins mènent à Rome. Et c'est bien réel, mais j'ai encore quelque chose à ajouter à ce proverbe. Il n'y a qu'un seul chemin pour en sortir. Et c'est ce chemin que nous devons trouver. Celui qui ne trouve pas ce chemin reste à l'intérieur. Et nous voyons que tout va comme à l'abattoir, sans savoir de quoi il s'agit réellement. Considérons aujourd'hui, dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, quelques-unes des pensées que l'apôtre a développées et écrites ici. Puisse-t-elle nous fortifier dans la foi, afin que nous n'entendions pas seulement la parole de Dieu comme nous écoutons les informations, mais qu'elle nous touche le cœur et qu'elle puisse en même temps produire en nous ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Tout d'abord, à partir du verset 3, Paul écrit Colossiens 1, verset 3, « Nous rendons continuellement grâce pour vous dans nos prières à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Colossiens 1, verset 3, maintenant le verset 4, car nous avons appris votre état de foi en Jésus-Christ et l'amour que vous portez à tous les saints. Une telle action de grâce jaillira de nos cœurs lorsqu'il sera manifeste que nous ne servons pas Dieu seulement avec nos lèvres, mais avec tout notre cœur. Nous avons récemment effleuré ici, et je suppose aussi à Zurich, la parole du prophète Malachie, où il est écrit: le jour où je l'accomplirai, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Tous deux chantent les mêmes cantiques et tous deux ont peut-être du temps à consacrer au Seigneur, l'un et pas l'autre. Bien-aimés, la question qui se pose vraiment à nous tous est la suivante. Pour qui vivons-nous réellement? Qui est le centre de notre existence terrestre et spirituelle? À qui appartient notre temps, nos talents et tout ce que Dieu nous a donné? Ainsi, l'amour qui nous a rachetés doit devenir grand et intime en nous pour notre Seigneur, profond en nous pour notre Seigneur. Et il est encore dit ici, Colossiens 1, verset 5, à cause du bien d'espérance qui vous est réservé dans le ciel, vous en avez eu connaissance d'avance par la parole de vérité, c'est-à-dire par le message du salut. Verset 6, qui a été reçu chez vous comme il est répandu dans le monde entier et qui porte du fruit et croît, comme chez vous depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez reconnu la grâce de Dieu. En vérité, là encore, il y a deux sortes d'hommes, deux. Les uns chantent la grâce, prêchent la grâce, lisent la grâce, parlent de la grâce, et les autres ont fait l'expérience de la grâce de Dieu. Et nous sommes arrivés dans le temps où les notions bibliques doivent devenir une réalité divine dans notre vie de foi, notre vie de croyant. Si nous parcourons les assemblées aujourd'hui, toutes ont fait l'expérience de la grâce, toutes croient, toutes servent Dieu et nous allons tous dans des directions différentes malgré tout. Qu'a dit un jour Moïse au Seigneur? Si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, tes projets. Bien-aimé, un homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu, celui-ci, il lui indique ses voies, son chemin, et ce ne sera pas sa propre voie, ce sera la voie de Dieu selon sa parole. Et c'est là que se manifeste si nous avons effectivement trouvé grâce devant le Dieu vivant. C'est là que l'on entend le petit ajout dans Colossiens 1, 6, en vérité. Reconnu la grâce de Dieu en vérité. La grâce de Dieu, il faut la connaître, la reconnaître. Il faut en faire l'expérience et il faut savoir et reconnaître dans quel but on l'a vécu. Et c'est bien là le sens et le but de la prédication de la parole de Dieu, que nous puissions vivre personnellement les choses que nous entendons. Nous l'avons lu ici, Colossiens 1, verset 6, en qui vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Colossiens 1, verset 6, qui peut la connaître? Seulement celui qui l'a vraiment vécu, vraiment expérimenté. C'est en cela que consiste cette connaissance. Et si c'est le cas, alors nous reconnaissons la voie de Dieu, le chemin de Dieu avec son peuple en ce temps. Cela signifie que nous ne nous arrêtons pas spirituellement, mais que nous avançons avec obéissance à la suite de Jésus en suivant le Seigneur conformément au plan de salut et à l'évolution spirituelle. Bien sûr, il est très facile pour nous et pour tous les mouvements de regarder en arrière et de voir où chacun s'est arrêté depuis les jours de la Réformation. Mais ce n'est pas notre tâche. Notre tâche consiste à regarder dans le miroir de la parole de Dieu et à nous demander « Où suis-je? Où es-tu? Où sommes-nous? Où nous sommes-nous arrêtés spirituellement? » Peut-être même où avons-nous regardé autour de nous? Dieu a tracé un chemin pour nous afin que nous y marchions. Il a établi toutes choses dans son plan de salut du début à la fin. Et son peuple s'insère dans ce programme divin. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ces derniers temps, Dieu a un plan. Dieu a un concept. Dieu a un dessein. Personne ne peut me dire que Dieu laisse les choses au hasard. Ce serait en effet indigne de Dieu. Non, Dieu a un plan glorieux. Et Paul a déjà pu dire autrefois, car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Acte 20, verset 27. Et nous voulons faire de même en ces jours. C'était peut-être la différence entre tous les évangélistes célèbres et connus dans le monde entier et le ministère de frère Branham. Tous ont pris dans la Bible les sujets qui ne peuvent choquer personne, qui ne peut choquer personne. Quand il s'agissait des questions de la divinité, du baptême d'eau, du souper, tous les enseignements bibliques ont été mis de côté. Ils ont simplement dit, ou comme on l'a dit, ils ont évangélisé, tout le reste a été laissé de côté. Il y a la partie doctrinale, la partie prophétique, et ce n'est pas parce que nous le faisons maintenant avec frère Branham, peut-être parce que nous le ferions avec Paul, avec Moïse et avec tous les prophètes, parce que nous le faisons avec le Seigneur. Mais on peut quand même demander humblement, pourquoi tous les autres évangélistes n'ont-ils rien annoncé de la parole prophétique et de tous les enseignements bibliques dans leur campagne géante? Géante. Pourquoi pas? Si tel avait été le cas, leur campagne n'aurait plus été aussi gigantesque et beaucoup leur aurait tourné le dos. Mais grâce à Dieu, il y a eu une voix dans le désert. Un homme de Dieu, sans crainte, qui n'avait pas besoin de l'argent des gens, ni de leur réputation et de leur bienveillance, qui s'est simplement contenté de l'approbation de Dieu, de la faveur de Dieu, pour annoncer aux hommes la vraie parole de Dieu, avec un mandat divin. Nous en sommes heureux et aussi reconnaissants. Mais nous disons tout aussi bien que tous les autres ont aussi leur tâche et leur place. Nous aimerions bien sûr suivre le programme global de Dieu et nous nous efforçons donc principalement de connaître le plan de Dieu dans son noyau et de nous y laisser insérer. Le verset 7 dit, Colossiens 1, 7, vous avez reçu l'enseignement en question de notre bien-aimé compagnon Épaphras, qui est notre représentant et un fidèle serviteur du Christ, verset 8, et qui nous a aussi parlé de votre amour qui est produit par l'Esprit. À l'époque aussi, il y en avait quelques-uns qui, avec les hommes de Dieu, proclamaient la même parole, les mêmes enseignements. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, parle aujourd'hui le même langage divin qu'il y a 2, 4 ou 6 000 ans. Les hommes changent, les conditions changent, les temps changent, mais il y en a un qui est au-dessus de tous les temps, car il est d'éternité en éternité, il reste le même, et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance de tout cœur et le croire. Le verset 9 dit, Colossiens 1, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Opéré par l'Esprit. Il y a beaucoup de sagesse. Des livres ont été écrits et la sagesse semble être partout. Puis, Paul écrit aux Corinthiens ce court verset. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Qu'est-ce que la sagesse des hommes devant Dieu? Nous ne faisons que gêner Dieu avec notre capacité, notre volonté et toute notre sagesse. Nous lui sommes un obstacle. Bien-aimés, au fond, il n'y a que deux volontés. L'une est la volonté de Dieu et l'autre peut être ta volonté ou la mienne. Et ce n'est que si nous parvenons à nous laisser insérer dans la volonté de Dieu qu'elle pourra s'accomplir dans notre vie par la grâce. Il est dit ici, Colossiens 1, 9, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, opérée par l'Esprit. Opérée par l'Esprit. Afin que vous marchiez, verset 10, d'une manière digne du Seigneur pour son entière satisfaction. Oui, puissiez-vous porter du fruit en toute bonne œuvre et croître dans la connaissance de Dieu. Chaque parole est précieuse ici. On pourrait s'y arrêter. Qu'est-ce que la croissance dans un homme? Non pas ce dont on parle si volontiers, mais ce qui t'est devenu précieux. Ce que tu n'as pas pu apporter de toi-même, ce qui ne vient pas de toi du tout, mais qui a pu être opéré dans ta vie par la grâce de Dieu. Tout ce que nous apportons nous-mêmes ne peut pas tenir devant Dieu. Nous devons déposer tout cela sous sa croix et laisser quelque chose de tout à fait nouveau se créer en nous, être créé en nous. Bien-aimés, je ne peux guère le taire. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas du tout expérimenté Dieu correctement. Et cela en vérité, réellement. Que beaucoup de croyants sont devenus simplement religieux, religieux, pieux, peut-être parce qu'ils ont peur de l'enfer ou quelle qu'en soit la raison, mais que nous n'avons pas vécu, expérimenté Dieu d'une manière authentique au plus profond de notre âme. Et cela signifierait que nous écouterions en vain et que nous chanterions les cantiques en vain et que nous finirions par être trompés ou déçus à la fin. Que personne ne nous en veuille. Mais nous devons annoncer la parole de Dieu de manière à ce que chacun puisse faire son expérience personnelle avec Dieu. Avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, sinon vous vous en prendrez à nous. Vous nous en voudrez pour l'éternité et vous nous accuserez au jour du jugement. Oh, qu'est-ce que je souhaiterais le plus? Que nous ayons tous une telle expérience avec Dieu, aussi puissante. Nous savons que l'Esprit de Dieu plane sur l'Église. Il a déjà été répandu à la Pentecôte et il agit partout où l'Évangile est annoncé. Mais nous savons aussi, je l'ai déjà dit ici dans le texte original, que ce mot planer a encore la pensée fondamentale de la chaleur, de brouter, de la chaleur comme la lumière et la chaleur émane du soleil. Ainsi, l'Esprit de Dieu émet de la lumière, de la chaleur pour produire la vie. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée la vie. Et si l'Esprit de Dieu vient avec la chaleur de la lumière, avec la chaleur et la lumière, alors il doit y avoir une semence qui peut sortir. S'il n'y a pas de semence, qu'est-ce qui pourra sortir? Tout devient alors encore plus sec, comme c'était le cas auparavant. Et toute la lumière et toute la chaleur ne servent alors à rien. Bien-aimés, si nous nous rendons compte que Dieu a donné une glorieuse semence de sa parole pour ce temps et qu'un précieux ensemencement est en cours, nous devons comprendre que nous devons garder cette parole de Dieu dans notre cœur. Mais ensuite, l'Esprit de Dieu doit rendre cette parole vivante avec sa chaleur, avec sa lumière. Il doit produire, il doit la faire sortir. Et alors, nous avons notre expérience réelle avec Dieu. Ainsi, les personnes qui ont fait réellement une expérience avec Dieu se sentent si misérables, si inutiles, totalement inutilisables. Et ils ne le disent pas seulement en paroles, mais comme Paul l'exprimait alors dans Galates 1, comme le plus noble parmi tous les pécheurs, comme quelqu'un à qui le Seigneur a finalement fait grâce. Fait grâce. L'homme qui vient à Dieu n'expose pas sa poitrine, mais il tourne ses yeux vers la poussière d'où il a été tiré ou enlevé, ou lui ou son corps, et il lève ensuite les yeux avec foi vers celui qui nous a fait grâce et qui nous a fait connaître sa parole en ce temps. Que souhaiterions-nous tous plus que de voir chaque parole de Dieu confirmée comme vrai en nous et par nous. Que les pécheurs reçoivent la grâce, fassent l'expérience du pardon et du salut. Que les malades reçoivent leur guérison sous le coup de la parole, parce que la foi a pu être déposée dans leur cœur et opérée par l'Esprit sous l'écoute de la prédication de la parole. Il est dit ensuite, au verset 11, Colossiens 1, « Puissiez-vous être revêtus de toute la puissance qui correspond au pouvoir de sa gloire pour toute fermeté et persévérance. » Au verset 12, « Et rendre grâce avec joie au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. » Lorsque l'ange a annoncé, il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et il est bien écrit, et la gloire du Seigneur leur apparut. Regardez, quand il lit le prophète Ézéchiel, il dit, « Et je vis la gloire du Seigneur près du fleuve Kébar. » Ézéchiel 1:3. Et par là, il était toujours question de cette lumière, de cette nuée de gloire. Nous le savons. Elle était colonne de feu. La nuit, elle était colonne de nuée. Le jour, cette nuée surnaturelle de la gloire de Dieu. Notre Seigneur apparaît dans la chair et sa gloire apparaît dans l'esprit. En esprit. N'est-ce pas merveilleux? Parmi ceux qui appartiennent pratiquement au monde spirituel ou au monde de l'esprit, à savoir toute l'armée des anges, ils sont enveloppés dans la gloire de Dieu. Et c'est de cette gloire de Dieu que vient l'annonce. Aujourd'hui, le Seigneur vous est né. Le Seigneur apparu dans la chair à cause des hommes qu'il voulait sauver. Oui, qu'il devait sauver selon son plan. Lui, dans la chair, et là, la nuée de gloire au-dessus de lui. Qui peut expliquer cela en tant qu'être humain? Dieu ne doit pas d'explication à un seul être humain pour ce qu'il fait. Dieu est incompréhensible pour nous. Il y a une parole glorieuse dans Néhémie, au 9e chapitre, qui dit que le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï et que sa voix a retenti du haut des cieux. Néhémie 9, verset 13. Il est monté sur le mont Sinaï et sa voix est descendue du ciel. Qui peut expliquer tout cela? Il y a des gens qui lisent dans Matthieu 3 que notre Seigneur a été baptisé et que la gloire de Dieu, oui, que l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Et ils se creusent la tête à ce sujet. Bien-aimés, Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre et nous devrions le remercier de ce que nous ne pouvons pas le comprendre. Car si nous pouvions le saisir, il serait ici quelque part visible avec nous et nous n'aurions plus de crainte, nous n'aurions plus de respect pour lui. Bien-aimés, plus on se plonge dans ces choses, plus toutes les choses que le Seigneur nous a révélées par sa parole et par son esprit nous deviennent précieuses. Ce sur quoi les autres se creusent la tête, notre cœur s'en réjouit et en exulte. Et nous n'avons absolument pas besoin d'expliquer quoi, mais de croire tout. Alors que certains s'efforcent d'expliquer certaines choses, d'autres croient tout. Tout simplement, ils croient tout. Qui peut expliquer Dieu ou ce qu'il fait? Un tel homme n'a pas encore existé et n'existera jamais. Prenons maintenant ceci comme un fait divin pour notre vie, à savoir ce qui est écrit ici au verset 12 de Colossiens 1. Et rendre grâce avec joie au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant que nous nous regardions nous-mêmes et disions, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, 24. Paul a également dit cela dans Romains chapitre 7. Mais ici, il nous a donné un terrain de foi sous nos pieds de croyants. Et nous devons une fois parler le langage de Dieu. Et c'est celui des faits accomplis de Dieu. Avec Dieu, chez Dieu, toutes les choses sont déjà accomplies pour lui. Il a déjà vu la fin avant le début, avant le commencement de toutes choses. celui qui lit l'Apocalypse et ce qui est écrit à ce qui est écrit au chapitre 19, au verset 6, par exemple, et j'ai entendu le bruit d'une grande foule, et ils jouaient des harpes de Dieu, et ainsi de suite. Et il est dit ensuite, « Bénis ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. » De quoi s'agissait-il? Cet homme a vu sur l'île de Patmos, il y a déjà près de 2000 ans, l'épouse, déjà accompli, l'épouse de l'agneau, dans la gloire, il a entendu son chant d'allégresse avec Dieu. Tout est déjà fixé, établi, accompli. Ce sont déjà des faits accomplis. Et nous nous laissons balloter un jour. Nous sommes en haut, un autre jour en bas. Un jour nous croyons et puis nous avons de nouveau des difficultés. C'est ce qui nous arrive à tous. Nous sommes encore dans ce corps. Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour nous soumettre à nos propres fluctuations ou nous soumettre à nos sens. Ce soir, nous sommes ici pour croire Dieu et dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie de ce que tu m'as rendu capable avec tous tes saints et tes bien-aimés de recevoir l'héritage dans la lumière. Pouvons-nous saisir cela dans la foi? Par la foi, à 100%. Aussi certainement que le Seigneur, qui tend la lumière et la gloire, est venu sur ce monde maudit et obscur, et ainsi qu'il l'a rempli par lui, ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une lumière éclatante. Nous croyons donc qu'il est venu dans ces ténèbres et que la lumière brille dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 1:5. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ceci, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Bien sûr, les ténèbres sont là, mais la lumière brille dans les ténèbres. Et le jour, nous n'avons pas besoin de la lumière, mais quand il fait vraiment nuit noire et que l'on voit une lumière vive, c'est agréable. C'est très beau. Il faut avoir vécu cela dans des pays quelque part loin de la civilisation où l'on dépend encore de la lumière qui n'est pas actionnée par un interrupteur. La lumière au milieu de l'obscurité a quelque chose à voir avec de l'espérance. On remarque que quelque chose a changé. L'espérance est liée à la lumière. Bien-aimés, Jésus-Christ, notre Seigneur, est la lumière du monde. Et par lui doivent être éclairés tous ceux qui ne sont pas seulement nés dans ce monde, mais qui doivent naître de ce monde dans l'autre monde. Naître de nouveau. Ainsi, il nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, verset 12. C'est un fait divinement accompli. Il ne le fera pas d'abord. Déjà, il l'a fait déjà. Au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les ténèbres, et là nous ne nous trompons pas, ont une certaine violence. Et cette violence, elle l'a exercée sur nous. Et il nous est dit ici, en effet, il nous a sauvés de l'emprise des ténèbres, délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous en a tirés, il nous a rachetés et transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est cela, en vérité, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne vient pas avec des choses extérieures, mais il est et commence intérieurement à nous. En ce que nous avons été arrachés au domaine des ténèbres, délivrés de la puissance des ténèbres, de l'incrédulité, de la désobéissance, de la rébellion contre Dieu, hors de notre propre plan, de notre propre volonté, hors de tout ce qui nous enchaînait, et en même temps placé, transféré, transporté dans le royaume du Fils, de son amour, de son amour. Ainsi, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne nous arrache pas pour nous laisser ensuite suspendus en l'air. Il arrache de l'emprise de Satan, du domaine des ténèbres, de l'incrédulité, du doute, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il arrache et ensuite, il... Et ensuite, il implante. L'un est le royaume des ténèbres et l'autre le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre cela? Le royaume de Dieu est un royaume qui a été établi par amour pour nous. Par amour pour nous. Ainsi Dieu a tant aimé le monde. Et c'est pourquoi Dieu ne contraint personne, n'oblige personne. L'amour de Dieu veut se révéler et se manifester en chacun de nous. Une personne qui doit être forcée à aimer constatera que ce n'est pas possible. L'amour doit être réciproque. Il doit venir du cœur. Dieu ne force personne, mais son amour nous submerge, toi et moi. Montre-nous ce soir, à toi et à moi, que Dieu nous a aimés. Nous montre ce soir, à toi et à moi, que Dieu nous a aimés si profondément qu'il s'est révélé en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il est venu dans le domaine des ténèbres. Il n'a même pas eu peur de descendre en enfer et d'y faire le ménage, d'annoncer là-bas la victoire de la croix et d'en faire sortir tous ceux qui y étaient destinés et qui se trouvaient au paradis. Qui se trouvait au paradis. C'est pourquoi Paul écrit dans le chapitre 4 des Éphésiens, « Celui qui est monté est le même que celui qui est descendu. » Auparavant, dans les endroits inférieurs de la terre. Et puis, il est écrit de manière si glorieuse. Il a conduit la prison en captivité et il a donné des dons aux hommes. La prison de Satan, ce qui nous tenait prisonniers, toi et moi, c'est ce qu'il a capturé pour libérer. Nous savons tous que jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des prisonniers ici, des prisonniers là. Et quand les puissances victorieuses sont arrivées, tous les prisonniers étaient libres. Bien-aimés, nous avons affaire à la puissance victorieuse de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette puissance de victoire doit être manifestée. Et Jean nous écrit comme cela se passe. Comment est-ce que cela se passe? À savoir, il dit, la foi est la victoire qui a vaincu le monde. 1 Jean 5, 4. Et il dit, cette puissance de victoire, c'est la foi. Quand allons-nous bien? Quand nous avons la foi? Quand allons-nous mal? Quand nous ne croyons pas? C'est vrai ou pas? C'est là que nous tombons malades. C'est là que notre estomac ne va pas et que notre col ne va pas. Mais si nous croyons, nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Et nous avons vraiment toutes les raisons de faire confiance au Seigneur de le croire, de le prendre par ses paroles. Retenons donc ceci de la prédication d'aujourd'hui. Il nous a en effet sauvés, délivrés de la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Cela a eu lieu par Dieu. Le royaume de Dieu est en effet parmi nous, en nous et avec nous. La question est de savoir si en tant qu'individu, nous pouvons témoigner avec cette parole et dire « Oui Seigneur, je sais que cela m'est arrivé. Je sais même comment cela s'est passé et quand est-ce que cela s'est passé. Je l'ai vécu. Tu m'as fait sortir du domaine des ténèbres et tu m'as fait entrer dans le royaume de Dieu. J'ai de nouvelles pensées, de nouveaux intérêts, une nouvelle vie. Tout m'a été donné par Dieu. De nouveaux intérêts, une nouvelle vie. Tout m'a été donné par Dieu. L'un pris, l'autre donné. Bien-aimé, s'il y a aujourd'hui parmi nous quelqu'un qui ne peut pas encore témoigner de cela, et cela du fond du cœur, sans effort, vous n'avez pas besoin de lever la main, mais vous devriez laisser votre cœur parler. Parler et dire à Dieu, Seigneur fidèle, je sais que tout cela est vrai. Tout s'est passé à Golgotha. Seigneur, tu es venu sur cette terre directement dans le domaine des ténèbres, car Satan est le Dieu de ce monde. Et il a même dit à notre Seigneur à l'époque, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout le royaume du monde. Satan, le Dieu de ce monde, le chef des ténèbres, le Seigneur, est entré dans ce royaume. Il a apporté la lumière et la vie. Il a racheté le peuple de Dieu. Et il en a retiré. Accepte-le aujourd'hui dans la foi et dites, Seigneur, je crois que moi aussi, j'ai été sauvé, délivré, arraché, retiré du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et que j'ai été transféré, placé dans le royaume de Dieu. Et c'est le royaume de l'amour, pas de la haine, mais de l'amour. Et ici, nous avons à nouveau le point central de la rédemption et de la prédication de l'Évangile. L'amour de Dieu qui s'est manifesté dans notre Rédempteur envers ceux qui doivent être rachetés. Ce même amour de Dieu doit être maintenant manifesté par tous les rachetés, les uns envers les autres et envers lui, sans aucune distinction. Il n'y a pas de amour de Dieu différent, ou trois ou plusieurs. Il n'y a qu'un seul amour de Dieu. Le même amour de Dieu qui a fait monter notre Rédempteur sur la croix est le même amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Rédempteur et le racheté vont de pair. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. C'est notre rencontre avec notre Dieu. De son côté, tout s'est fait. Tout est accompli par amour. Tout s'est fait par amour. Maintenant, de notre côté, cela doit aussi se faire par amour. D'où le terme utilisé ici, sauver des ténèbres, délivrer de la puissance des ténèbres et placer dans le royaume du Fils de son amour. Donc un royaume de Dieu établi par amour. Toi et moi devons être dans ce royaume de Dieu, arrachés au domaine des ténèbres, placés dans la lumière de Dieu. Cela s'est-il produit ou cela doit-il se produire ce soir? Si cela s'est déjà produit pour beaucoup, cela peut encore se produire pour beaucoup. Cela peut toujours devenir une nouvelle réalité divine sous la prédication. Et nous devons en arriver là, non seulement à entendre les choses, mais aussi à les croire et à les vivre sur place et à pouvoir les emporter chez nous en disant, « Seigneur, aujourd'hui, tu m'as parlé, mais plus encore. Aujourd'hui, j'ai compris ton offre de grâce. Aujourd'hui, je l'ai accepté avec foi. Aujourd'hui, tu m'as sorti du domaine des ténèbres, de l'incrédulité, de la désobéissance, de la rébellion contre Dieu, de nos propres programmes, de nos propres voies, de notre propre piété, vraiment de tout ce que nous avions et pouvions apporter. Je n'ai rien à apporter, tout vient de toi, ô Seigneur. Voici mon cœur, voici ma vie. Pauvre comme je suis, je viens à toi. Sorti du domaine des ténèbres, de l'emprise, de la puissance du diable, je suis entré dans le royaume du Fils de son amour. Non seulement l'amour de Dieu était dans le Fils de Dieu, mais le même amour de Dieu est dans tous les fils et toutes les fils et toutes les filles de Dieu, pardon. Et c'est là que beaucoup peuvent ne pas comprendre la parole de l'Épître aux Romains, où il est écrit, « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. » Ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, en effet, est l'Esprit de Dieu, dans lequel nous crions « Abba, Père !» où la relation de filiation a été établie par Dieu à travers Christ. Bien-aimés, cette relation, Dieu, notre Père, nous, ses enfants. C'est pourquoi notre Sauveur a également dit dans Jean 20, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Mais va vers mes frères et dis-leur. » Est-ce que ça, c'est une parole précieuse, une parole glorieuse? Jésus, le premier-né, et nous, les premiers-nés, lui, le Fils de Dieu, nous, les fils et les filles de Dieu, arrachés par lui au domaine de Satan, placés dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. C'est grand, c'est glorieux, c'est une réalité divine pour toi et pour moi. Loué soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, remercions notre Dieu pour cela. Et pour cela, nous nous levons. Amen. Père céleste, tu sondes tous les cœurs et tu nous examines pour savoir ce que nous pensons. Nos pensées aussi sont exposées devant toi. Dieu fidèle, nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Personne ne peut se sauver. Personne ne peut se racheter. Personne ne peut se libérer, se délivrer. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi. Parce que tu as déjà fait tout cela. Tu as sauvé. Tu as délivré, tu as délivré, tu as racheté, tu nous as appelés par notre nom. Nous sommes à toi. Tu nous as vus gissant dans notre sang alors que nous nous débattions sans pouvoir nous aider. Et tu as ensuite versé ton sang, saint et précieux, Tu es venu dans le domaine des ténèbres. Tu as ouvert une brèche par la croix. Tu as fait un chemin nouveau et vivant pour que la lumière se lève dans tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui croient que tu es venu détruire les œuvres de Satan et édifier l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. C'est toi qui as fait cela. Loué et exalté soit ton nom. Donne-nous maintenant la foi vivante afin qu'il soit manifesté parmi ton peuple que toi et nous sommes avec toi dans ton royaume. Que toi et nous avec toi, nous sommes dans ton royaume avec toi. Alléluia. Louange, honneur, gloire et adoration à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Glorieux nom de Jésus. Croyez-vous tous que le Seigneur l'a déjà fait sur la croix à Golgotha? Amen. Alléluia. Croyez-vous que Dieu veille sur ses paroles pour faire ce qu'il a accompli une réalité dans l'Église? Pour faire de ce qu'il a accompli une réalité dans l'Église? Amen. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Que même le dernier soit saisi par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, que l'heure de la foi soit arrivée et avec elle le temps de la visitation divine de grâce et de la réalisation de toutes les promesses au milieu de ton peuple. Que ta victoire soit dignement manifestée à la louange et à la gloire de ton nom merveilleux et glorieux qui est au-dessus de tout nom. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous acceptons la victoire de Dieu comme une réalité divine pour notre vie de croyant, notre vie de foi, maintenant, ce soir, ici. Et nous te remercions de la rendre manifeste. Alléluia. 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 Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. Nous t'adorons. L'enfer n'a pas pu te lier. Satan ne t'a pas retenu. Et la mort ne t'a pas emporté dans la corruption. Seigneur, tu nous as montré le chemin de la vie, du salut et de la grâce. Nous te remercions. Je te remercie pour cela. Tu nous as sortis de l'emprise des ténèbres, de la puissance des ténèbres, du domaine des ténèbres, pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'amour. Nous t'en remercions et l'acceptons comme une réalité divine. Fidèle Seigneur, pardonne-nous dans la mesure où nous pouvons croire que nous serons avec toi au festin des noces, plutôt que de te voir te manifester dès maintenant parmi ton peuple comme le ressuscité. Sauveur, nous reconnaissons ouvertement notre manque de foi et nous te prions, fortifie-nous dans cette foi, augmente-la et révèle-toi parmi ton peuple à la louange et à la gloire de ta grâce et en récompense de tes douleurs. Ô agneau de Dieu, nous te remercions et nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.